Свобода, бля, свобода. Один вагон набит битком, а я как курва с котелком. По шпалам, бля, по шпалам, бля, по шпалам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит, твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял, кошмары.
Yo, c'était Dina Verny qui nous chantait Nana Rach, qui veut dire sur les bancs, sur les bancs, sur les bancs de prison, où elle raconte que une fois de plus, il vote s'il joue à Piat Sturmier, une fois de plus, je suis en prison, et une fois de plus, le soleil ne chauffera pas ma tête. On continue avec le livre de Igor Reinilevich, un passage sur le courrier en prison. Il est toujours en centre de détention, en maison d'arrêt, donc avant son jugement. On est toujours en train d'essayer de lui extorquer des aveux. Donc il y a les services secrets ou les services intérieurs biélorusses qui ont plein de manières d'essayer de jouer un peu avec son humeur, ses nerfs, et tout ça pour lui extorquer des aveux. Donc il dit « Nos lettres ont disparu brusquement. En décembre, j'ai réussi à en recevoir une pile entière. Mais depuis janvier, je n'avais presque rien reçu. » Seules les correspondances de certaines personnes me parvenaient. Celles de mes parents, de la famille, de quelques amis, et des rares lettres de camarades où il était difficile de trouver quoi que ce soit de politique. Le temps, entre chaque lettre, est passé de quelques jours à un mois, en fonction du comportement et des discussions dans les cellules. En moyenne, les lettres qui étaient postées de Minsk mettaient 2 semaines pour arriver. Les lettres, c'est quelque chose. Elles vous remontent le moral, surtout quand elles décrivent des petites choses de la vie de tous les jours. Mais au travers de la régulation et du filtrage du flot de courriers, les gardes pouvaient insidieusement te tromper sur l'attitude des gens envers toi et sur la réalité du monde. Par exemple, plusieurs personnes, aussi importantes les unes que les autres, pouvaient t'écrire. Mais ils ne laissaient passer les lettres que de l'une d'entre elles. Et ils pouvaient même bloquer cette personne-là. Alors vous commencez à penser qu'on vous oublie et que personne n'a besoin de vous. En plus, ils groupent les lettres contenant des informations négatives. Ça, c'est dur. Bien sûr, on se répète des milliers de fois que ce n'est pas vrai, qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais inconsciemment, le doute s'insinue. C'est impossible d'échapper. Et ils n'attendent que ça. Dans un contexte de manque d'informations, la sélection d'informations t'influence, que tu le veuilles ou non. Dans cette situation, il est bon de se répéter comme une prière. Un jour viendra et je saurai tout. C'est ce que je faisais chaque jour. Malgré la technologie de filtrage, il leur arrivait de laisser passer certaines choses, 2 ou 3 lettres, non pas parlant de contenu, mais juste parce que je les avais reçues, m'ont renseigné et ont dévoilé toute une série de mensonges de la part des enquêteurs. Ainsi, je connaissais certains aspects de mon dossier et je pouvais compter dessus. De telles informations valaient de l'or. Des nouvelles d'amis que j'ai pu recevoir au début m'ont procuré un soutien supplémentaire. Ah, les amis. Combien d'années de routes communes, de fêtes joyeuses, d'aventures frivoles, de compréhensions sincères. Ça semblait éternel. Qui aurait pu penser qu'au lieu d'attaquer un château revêtu de casques et d'armures, ce seraient les confins de la Maison Rouge que vous prendriez d'assaut avec vos lettres de l'extérieur. Chacun des messages que je recevais, avec des mots de soutien, était inestimable. Il stimulait ma mémoire, m'empêchait d'oublier qui j'étais et empêchait les bourreaux de faire de moi une marionnette aveugle et docile. On continue dans le livre avec un passage où Igor Alinevitch est convoqué chez le directeur de la prison qui est surnommé par les détenus l'Americanka, la petite Amérique. Être convoqué chez le directeur de l'Américanka était une autre histoire. Dans cet asile de fous, seul son bureau était un havre de paix et de tranquillité. En général, il te recevait d'une façon très amicale. Il était capable de te distraire et de t'écouter. Il m'a dit qu'il avait participé à des opérations dans les montagnes, qu'il avait été en prison, en Asie, qu'il ne buvait pas, qu'il ne fumait pas. D'une certaine façon, c'était difficile de croire que c'était lui, l'homme qui nous tormentait, comme un chat joue avec une souris, ou que c'était lui qui organisait toute cette tragicomédie. Il ne faisait pas d'erreurs maladroites comme les simples enquêteurs. Il pouvait te demander ton avis sur un code d'étude de but en blanc. Il pouvait te forcer à penser quelque chose qui ne serait pas ton opinion, en se contentant de te faire rejeter une position encore plus inacceptable. Je me souviens comment il m'a invité à regarder les photos où l'on voyait que les Bietko n'avaient pas tenu sa grève de la faim. Ça s'était raté, car il avait tenté le même truc avec quelqu'un d'autre auparavant. Et l'ordinateur dans ma tête s'était souvent mis à bugger quand il a essayé d'ouvrir les photos. La même chose s'est produite avec moi, alors que je n'étais pas surpris. Après tout, les professionnels font aussi des erreurs. De plus, j'avais vu comment Lebedenko s'était affaibli en quelques jours. Il tremblait, son visage était devenu pâle. Orlov, le directeur, décrivait la situation en prison comme la réponse à une épreuve à laquelle notre pays avait dû faire face. Il comparait l'opposition révolutionnaire français qui avait établi la terreur, et on ne peut pas savoir quelle terreur sera la pire. Je devais rester constamment sur mes gardes, faire attention à chaque mot, suivre les cheminements de pensée, le sien et le mien, et faire attention au dialogue en général. C'était une sacrée épreuve. Il y avait constamment le risque d'exprimer une opinion, un détail qu'il pourrait utiliser pour plus de crédibilité dans sa conversation avec d'autres détenus, et ainsi provoquer le doute et le désaccord. Il était impossible de ne pas lui parler. Maintes fois, je suis entré avec la ferme intention d'orienter la conversation pour me contenter de réponses monosyllabiques. Mais à chaque fois, Orlov arrivait à me faire parler. Tout comme le colonel de la 4e section, il connaissait son boulot, et il le faisait bien. Il y avait un thé superbe servi dans ce bureau, du pain d'épices, du cognac, comme dans les films. Je ne prends pas le thé avec les bourreaux. J'ai répondu ça une fois, et je le répétais à chaque fois que le directeur m'en proposait. Pour une raison inconnue, les gens pensent que ce n'est pas un problème. Comme si on pouvait prendre un thé avec un flic dans la mesure où il se comporte gentiment et décemment. Alors, si c'est ça, tu valides tous les abus et les déceptions auxquelles les prisonniers sont soumis. En fait, il y a deux sortes de geôliers, les mauvais et les très mauvais. C'est une vérité fondamentale. Toute courtoisie de leur part fait partie intégrante d'une stratégie dont le but est d'instaurer un climat de confiance inconscient. Orlov pratiquait l'adaptation par l'admission du système de valeurs et le mime en copiant tes postures. Hélas, ma connaissance dans ce domaine, la psychologie, est très restreinte et la plus grosse partie du siège psychologique restait invisible pour moi. Je me suis opposé pour me protéger en regardant le directeur avec un demi-sourire et je me répétais encore et encore, il m'oppresse, il m'étouffe, il m'humilie et il fit souffrir mes proches. C'est un ennemi et tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Un jour, un ami m'a dit que pour séduire une fille, il faut la déshabiller du regard. J'ai adapté, je ne sais pas si c'est une bonne technique entre nous. J'ai adapté cette approche à la situation présente de cette manière. J'imagine comment j'attraperai la gorge du directeur par-dessus le bureau et je l'étranglerai. Il convulse, l'écume aux lèvres, ses yeux se révulsent, il panique en essayant en vain de se dégager de cette poigne de fer. C'était le soutien parfait. Orlov parlait ouvertement des méthodes de torture, de l'aspect moral des dossiers. Il prétendait que son but était de nous faire douter. Il n'a pas répondu à mon objection concernant le fait qu'on n'était pas tous reconnus coupables encore. Pourtant, c'était déjà très clair pour eux qu'une personne est coupable, non pas parce qu'elle a été jugée, mais à partir du moment où elle est suspecte. Après tout, ils ne peuvent pas se tromper, c'est le KGB. On ne peut pas les comparer à des simples mortels. J'ai appris au cours de ces conversations, qu'ils avaient une approche individuelle de chaque cellule et de chaque individu. Il y avait en tout 18 cellules pour une soixantaine de prisonniers. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'équipement ni de beaucoup de personnel. Tout était bien planifié, quand, où, combien de fois. Où faire les fouilles, quel individu torturer ou humilier, où laisser les lumières allumées toute la nuit, où interdire de fumer. Ils avaient même planifié qui blesser pendant la sortie aux toilettes ou pendant la promenade. Alors que j'étais dans le bureau, Orlov a appelé les gardes et a donné l'ordre de ne pas toucher Molchanov pendant 2 jours, pas touché. Évidemment, les cellules étaient mélangées pour rendre la vie plus compliquée ou plus facile. c'est du fascisme classique. Lisez Mussolini et vous allez aimer, je lui dis-je. Oui, l'image de la civilisation est comme vous le décrivez. Je ne vous contredirai pas, c'est clair avec les loups. Mais qu'est-ce que de simples antilopes sont censés faire dans votre monde avec ces loups sur le dos ?
Sisters, all gather round. Together we are strong enough to bring this czar down.
Hey, hey, the Lord Politics.
Là, on vient d'écouter une chanson en yiddish mélangée à du russe, qui est une chanson contre la police et contre le tsar Nicolas II. Je vous reparle de Igor Alenevitch là, en lisant quelques extraits de son autobiographie qui s'appelle « Sur la route de Magadan ». On a écouté donc la façon dont il s'est fait attraper à Moscou de façon illégale, amené, kidnappé en fait, et amené à la frontière biélorusse, mis pendant quelques temps dans des geôles en essayant de lui extorquer des aveux sur des actions qu'il aurait commises pendant quelques mois, les aveux, enfin la prison. Et ensuite, il a été jugé en mai 2011, et condamné à 8 ans dans une prison de sécurité maximum, ça je vous l'ai dit. Libéré en 2015, il est parti en Europe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, à l'automne 2020, il y a eu... je ne peux pas répondre au téléphone.
Ouais.
Bon. Timide. Donc en octobre 2020, lui et trois autres gars, ils se font pécho à la frontière entre, entre l'Ukraine et la Biélorussie. Ils essayent de rentrer clandestinement en Biélorussie. C'est le moment où il y a un peu des plein de... où Loukachenko, on estime qu'il y a beaucoup de soupçons de fraude sur sa réélection, qui est le président biélorusse Loukachenko. Et donc, il y a un gros mouvement un peu qui se passe en Biélorussie. Et eux, ils essayent de re-rentrer clandestinement donc, dans leur pays. Ils se font attraper. Ils sont accusés de terrorisme. Ils sont accusés de l'incendie de 4 voitures dans les bureaux du procureur de Minsk. Et ils sont accusés aussi de l'incendie d'une branche locale de l'Institut de police scientifique. C'est là où il y a tout le stockage des traces ADN, tout ça. Donc, ils ont essayé de mettre le feu à ça. En tout cas, ils sont accusés de ça. Et en décembre 2021, il prend 20 ans de prison. Donc il est encore en prison. C'est quelqu'un à qui vous pouvez écrire. Bien sûr, on ne peut pas envoyer de mandat parce que son régime pénitentiaire l'interdit. Mais vous pouvez trouver plus d'informations sur lui sur le site de l'ABC Bélarus, qui est le Anarchist Black Cross. Donc si vous avez un stylo bientôt dans la main, vous pouvez noter ABC-Bélarus, BABELARUS.org. Et donc son nom, c'est Ihar Alenevich. Ihar, c'est en biélorusse, donc I-H-A-R Alenevich, A-L-I-N-E-V-I-C-H. Le nom russe, enfin le nom russifié, c'est Igor, I-G-O-R, Alenevich, O-L-I-N-E-V-I-C-H. Donc vous pouvez lui écrire, il y a son adresse sur le site de l'ABC Bélarus. Et comme il l'écrivait il y a déjà 10 ans, recevoir des lettres quand on est en prison, ça fait du bien, ça fait très plaisir. Et ça fait des petits rayons de soleil. On finit cette émission avec une dernière chanson de Sector Gaza qui s'appelle Chastushki Number 3. Chastushki numéro 3, c'est Chastushki, c'est une façon de chanter qui se répond, c'est une sorte de truc un peu choral à deux personnes qui se répondent les uns les autres avec plein de jeux de mots, plein d'histoires de bandits, plein d'histoires de prison, mais généralement plutôt joyeux. On vous dit à la semaine prochaine, normalement il y a du monde plus la semaine prochaine que moi tout seul, j'espère que vous n'avez pas trop ennuyé. Je vous souhaite une bonne soirée, on sait qu'il fait chaud au Beaumet, on sait qu'il fait chaud à Luynes, bon courage à tout le monde. Et à bientôt, on lâche pas, il n'y a pas d'arrangement. Ciao, ciao.
На горе кричит петух, под горой срет пастух. Все коровы разбежались, они тоже обосрались.
Наш Андрейка Чурбачок курит на ночь косячок, курит не вдыхая, в жопу запихая.
Как вчера у друга мы дома отмочили, все еще заперли в сарай и хуяв свалили.
Мой сосед под забором дрочит серой рукой пудовой, он дрочил бы еще, да влюбился горячо.
Жопа, зеленая ограда, а девки выебли коня, конь с копыт сорвался. Одна девка Лилия, у нее пизда красива, рожа крокодилия.
На Кубани я была, вино с чачи я пила, а потом всю ночь тогда хорошо блевала.
Как у нас разлился квас, все село залило, а я выбежал во двор, думал это пиво.
На картошке я была, целый день копалась, по разде моя пизда кем-то пропахалась.
Жопа, зеленая.
зеленая ограда. А дядьки выебли коня, конь с копы сорвался.
Уебал он им елдой и на пруд мотался, и на пруд мотался, а девок он съебался. Уебал, уебал, уебал елдой.
А как-то шел по пьяни я, повстречал пизду с утра. Если бы не было хуя, то пизда бы мне пришла.
Одеяло, одеяло, одеяло красное, как под этим одеялом моя целка хряснула.
Я ебусь как паровоз, у меня большой насос, выхлопное газ даю, всем я бабам вся вгоню.
У меня же в сарафане корабли да якори, меня в этом сарафане вчера отхуякали.
Опа, опа, пизда застряла в жопе, летит и хочет, да, заморская пизда. Нихуя, у нас мельница своя. Жопа дует, хуй вертит, а из пизды мука летит.
На каре стоит печила, всю пизду я растопила. А что делать, маменька, только писька маленькая.
Как в Ивановском саду, девку трахали пизду, в рот и в жопу на лету, отъебали бабу-то.
Ой, ты милый, дорогой, подойди же, что скажу. Поцелуйте меня в губы, на которых я сижу.
Жопа, жопа, зеленая
сада. Même les poches pleines, on sera jamais des leurs, non. N'oublie jamais qu'on sera jamais de leur monde. Je connais des gros, je peux pas donner leur